Bonsoir Ariane Bonzon.
Bonsoir.
Merci d'être venue. Je crois que vous êtes bien connue à Bordeaux. Enfin, en tout cas, je viens de m'en apercevoir, parce qu'il y a, vous avez beaucoup de familles et d'amis dans cette salle, mais pas seulement. Donc voilà, je
suis née à Bordeaux. J'ai fait une partie de mes études à Bordeaux. Et ma famille maternelle est bordelaise. Voilà.
Voilà. Donc cela dit, nous n'allons pas parler de Bordeaux ce soir, mais de la Turquie. La Turquie qui est donc l'un de vos sujets préférés. Donc vous êtes journaliste, Ariane Bonzon. Vous avez longtemps donc exercé dans ce pays. Vous avez été correspondante de la chaîne Arte pendant 10 ans, donc de 1996 à 2006. Vous avez continué d'ailleurs à vous intéresser à la Turquie, puisqu'entre 2000 et 2014, vous vous êtes donc occupé d'une agence de presse audiovisuelle, voilà, qui était basée à la fois à Paris et à Istanbul. Donc ça signifie que... Alors je passe sur vos autres états de service dans le journalisme. Vous avez servi en Israël, vous avez servi en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était pour Radio France Internationale. En Israël, c'était pour la télévision suisse romande. Voilà, je suis sûrement pas assez précis. Mais en tout cas, donc, pour ce qui concerne la Turquie, vous avez en fait, de 1996 à aujourd'hui, donc je dirais depuis plus de 20 ans, suivi ce pays, sa société, sa politique, l'évolution de sa politique. Ces 20 années d'histoire turque sont extrêmement riches, puisque en 1996, Recep Tayyip Erdogan n'est pas au pouvoir. Enfin, il est déjà sans doute maire d'Istanbul. Il commence sa carrière politique, mais donc en tant qu'élu local. Il va arriver au pouvoir donc à la fin des années 90 en ayant créé donc un parti. Alors l'histoire des partis islamistes est très compliquée, mais en tout cas ayant créé donc un parti qui s'appelle l'AKP, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui s'est pas mal transformé. Donc un parti qu'on appelle en France islamo-conservateur. Alors vous nous expliquerez.
Islamo-nationaliste, mais enfin qui au départ était islamo.
Vous nous expliquerez un peu comment est-ce qu'il faut entendre par là. Et alors, ce livre n'est pas uniquement consacré à Recep Erdogan, mais on s'aperçoit en vous lisant quelle figure écrasante il représente en Turquie, de par ses fonctions institutionnelles, mais aussi son influence, je dirais presque sociétale, dans l'évolution de la Turquie vers... la Turquie qui était au départ un régime laïque qu'on appelle kémaliste du nom de son fondateur, donc Kemal Atatürk, fondateur de la République turque, qui reste d'ailleurs aujourd'hui la référence comme Mao Tse-Tung en Chine, enfin quelque chose comme ça, donc vraiment une personnalité fondatrice, à laquelle d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan se réfère toujours. On dit même qu'il veut en 2024 être au pouvoir pour pouvoir fêter le centenaire...
2023.
Pour fêter le centenaire de la création de la République turque et se mettre officiellement, ce qui est déjà d'ailleurs dans les pas d'Atatürk, être le nouvel Atatürk, voilà. Mais un Atatürk bien différent. Et alors, ces 20 années, vous racontez l'évolution de la Turquie avec, la prise de pouvoir d'Erdogan dans un pays qui est totalement dominé par un pouvoir militaire, politico-militaire, avec une série de coups d'État sur lesquels nous reviendrons peut-être, et puis donc l'installation d'un régime démocratique, plus démocratique dans un premier temps, puisque c'est un régime qui précisément veut éloigner la férule des militaires, et puis ensuite une dérive autocratique qui jusqu'à aujourd'hui donc se confirme. Et évidemment, n'est pas sans inquiéter les partenaires de la Turquie, dont la France, évidemment. France où je rappelle que vivent 600 000 franco-turcs. Hein, donc on est vraiment très étroitement lié à la Turquie par la présence d'une diaspora turque.
Et kurde.
Et kurde, voilà. Et donc une diaspora où les frictions sont nombreuses. Et d'ailleurs, on le vérifie à Bordeaux, on l'a vérifié encore récemment, lorsqu'il y a eu notamment des opérations de l'armée turque en Kurdistan, ou bien lorsqu'il y a eu lorsque l'armée turque a envahi la poche d'Afrin pendant la guerre de Syrie. Donc là, on a vu effectivement la communauté turque se manifester, souvent se scinder donc entre différentes tendances. Voilà. Donc Ariane Bonzon, d'abord peut-être un mot sur comment vous avez composé ce livre et quel était un peu est-ce que vous aviez envie de faire un peu un bilan d'étape de ces 20 années au chevet de la Turquie.
Oui, bien merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Donc, en particulier pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une ville qui m'est indifférente, Bordeaux, puisque je suis bordelaise quand même du côté de ma mère. Erdogan, si vous voulez, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de parler de la société turque et de faire raconter aux Turcs ce qu'ils pensaient, leurs espoirs, leurs déceptions, etc. Ce livre, si vous voulez, c'est 20 ans de reportage, d'une certaine manière. Et comment ça s'est passé ? C'est l'été dernier, j'ai commencé à vouloir ranger ma maison. Et je suis tombée sur des vieux reportages de télévision que j'avais tournés pour Arte. Et au lieu de ranger, j'ai commencé à regarder ces reportages. Et je me suis rendu compte que ce que racontaient tous ces Turcs que j'avais interviewés, toutes ces petites scènes, toutes ces petites histoires, permettaient très bien de comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Et ce qui me semblait intéressant, c'était de remettre ces reportages dans leur jus, c'est-à-dire... Il y a une sorte de cheminement chronologique, mais aussi de savoir ce qu'étaient devenus les gens qui parlaient. Et en comprenant ce qu'ils étaient devenus 20 ans, 15 ans, 10 ans plus tard, on comprenait le cheminement collectif de la Turquie. C'est-à-dire que ce sont des portraits, des histoires individuelles, mais qui, assemblées les unes aux autres, permettent de dessiner le cheminement collectif de ce pays et ce basculement dans l'autocratie. Pourquoi, comment? Donc c'était ça un petit peu l'idée, cette plongée dans les archives. Et c'est vrai que les journalistes ont dit toujours que nous sommes les historiens de l'immédiat. Et pour une fois, c'est assez rare, je dois dire, d'avoir la chance d'avoir une vision sur 20 ans et d'avoir du matériel sur 20 ans. Souvent, les journalistes viennent, bon, ils restent 2-3 ans comme correspondants, mais c'est rare qu'il y ait ce suivi. Moi, je suis un peu monomaniaque, un peu obsessionnelle, donc c'est vrai que j'ai passé 20 ans à m'intéresser à la Turquie, qui est un pays compliqué, c'est vrai, aussi, et je trouvais que ça valait le coup quoi, de faire ressortir tout ça. Donc c'est ça un peu, si vous voulez, on part de 96 et on arrive en 2018 à travers les personnages, à travers la société, à travers des tas de petites histoires. C'est presque des petites nouvelles. Hein. Il y a eu un journaliste des Échos qui a fait un papier, il a dit chaque chapitre c'est comme un peu une nouvelle. Bon, c'est pas la littérature, mais c'est ça un petit peu l'idée. Voilà comment ce que j'ai voulu. Et Erdogan, c'est vrai, comme vous le dites parfaitement, il surplombe, mais j'ai voulu justement ne pas trop m'intéresser à lui. C'est surtout au dernier chapitre, je raconte la première fois que je l'ai interviewé.
Peut-être quand même, on va évacuer la question Erdogan, mais peut-être un mot sur, puisque vous l'avez rencontré plusieurs fois.
Hein.
Oui. Donc ça remonte à 96, c'est ça ?
La 96, il était maire, mais la première interview que j'ai faite, c'était pour Arte. En 2002, son parti, le parti de la justice
venait
et du développement,
venait de remporter les élections.
Et son conseiller me dit, pas de questions sur ce qu'il faisait quand il était maire, et en particulier le fait qu'il avait interdit l'alcool dans les parcs publics. Vous ne lui posez pas cette question. Alors évidemment, il suffit qu'on nous dise de nous interdire de poser une question pour qu'on la pose. Donc on l'a posée, et il est entré dans une colère noire, parce qu'à ce moment-là, effectivement, ce qu'il voulait montrer de lui-même, c'était, disons, une dimension musulmane démocrate, pas une dimension islamiste. Hein. Donc ça, on pourra revenir sur cette histoire, mais il y avait une volonté, d'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus qui s'appelle « Les habits neufs de l'islamisme », et qui montre comment... On a mis au premier rang des femmes qui n'étaient pas voilées, des femmes qui avaient un discours démocrate, musulman, pour donner une image, si vous voulez, quand même assez fréquentable, pro-européenne de ce parti. Hein. Ça a été, il y a une stratégie comme ça. Et le fait qu'il me demande de ne pas poser cette question-là, participer de cette stratégie.
Vous auriez posé la même question en 2018, à l'Erdogan de 2018, vous auriez peut-être risqué plus gros qu'en 2002, non ?
Ça, c'est... Oui, effectivement, bon, il y a effectivement maintenant les journalistes, la presse n'est plus... Enfin, la presse classique est sous pression, mais il y a une vigueur et une énergie du net, sur le net, sur Internet. Il y a une créativité, il faut absolument prendre en compte le fait qu'il y a une société civile turque qui est extrêmement énergique. Je raconte dans un chapitre, par exemple, les geeks, les jeunes turcs qui ont mis en place tout un système pour faire le contrôle des bulletins de vote, des bureaux de vote. Il y a une énergie absolument incroyable. Hein, alors là aussi, le gouvernement essaye de mettre une chape de plomb, mais il y a une vivacité extrêmement grande.
Alors puisqu'il s'agit de parler des personnes, puis que vous parlez des journalistes, journaliste que vous êtes, que je suis, mais donc, journaliste, qui est une profession, donc il y a beaucoup d'emprisonnés. Je crois que c'est le pays du monde où il y a le plus de journalistes emprisonnés.
C'est pas le pays. Il y en a actuellement, selon Reporters sans frontières, il y a 113 journalistes, mais il faut comprendre qu'en vérité, il n'y en a que 43. Qui sont emprisonnés pour des faits de journalisme. Alors ça, c'est un peu compliqué.
C'est déjà énorme.
Mais il faut savoir qu'être journaliste, ça vous protège. Et quand vous êtes un militant politique, on va voir hein, les forces, mais par exemple les militants politiques kurdes, les militants politiques d'un groupe qui s'appelle les Gulenistes, hein, qui est le groupe de l'imam Gulen, dont on reparlera, eh bien, ils ont beaucoup, beaucoup de journalistes, ces gens-là.
Et c'est vrai que certains de ces journalistes ne sont pas plus journalistes que bon, on ne peut pas dire que moi, mais donc c'est vrai que Reporters sans frontières les protège quand même, mais il n'y en a que 43 qui sont vraiment incarcérés ou arrêtés pour des faits de journalistes. Les autres sont des journalistes, mais c'est pour d'autres raisons qu'ils ont été incarcérés.
Alors, puisqu'on parle de personnages, il y a un personnage dont on a entendu parler en France qui s'appelle Hrant Dink. Mmh. Alors lui, il n'a pas été emprisonné, il a carrément été assassiné. C'était en 2007. Son assassinat a provoqué une onde de choc dans international. Hein. Il avait la particularité d'être d'origine kurde, d'origine arménienne. Donc évidemment, d'origine arménienne en Turquie, c'est une grande difficulté concernant puisque la question du génocide reste donc un épieu enfoncé dans les relations entre ces deux pays. Randink était une sorte de passerelle quand même entre l'Arménie et la Turquie. Il avait monté un journal. Il essayait par tous les moyens d'essayer de faire remonter donc à la surface cette histoire pour essayer de la désactiver, pour essayer de faire en sorte que, pas avec d'autres bien entendu, vous êtes très sensible d'ailleurs à cette histoire puisque vous avez en 2009, je crois que c'est 2 ans après, initié un livre turco-arménien pour parler du génocide, notamment avec l'intellectuel franco-arménien Michel Marian. Alors Randink, vous l'avez connu bien sûr.
Oui. Alors, sur ce bouquin, c'est intéressant parce que, en fait, le dialogue entre les Turcs et les Arméniens est tabou. Beaucoup d'Arméniens ne veulent pas parler aux Turcs. Et c'est vrai qu'en 2007, Michel Marian, qui est un philosophe, et Ahmet İnsel, qui est un économiste turc, sont des amis. Et je leur ai dit, bon, et si vous vous asseyez autour de la table, en fait, c'était la table de ma cuisine, hein, ils sont venus dans ma cuisine pendant 2 mois, 3 mois, et on a fait un livre de dialogue où les deux ont exprimé leur position, pas tant sur le génocide, mais sur leur vie, leurs ancêtres, leurs parents, tous leurs itinéraires. Et ça, c'était très intéressant parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de points communs et que ça montrait bien que la Turquie avait été un pays arménien aussi. Hein. Alors, Randink, je l'ai rencontré, donc vous faites en 2001. Et en 2001, si vous vous souvenez bien, le Parlement français vote une loi reconnaissant le génocide arménien. Ce qui lui vaut, évidemment, un oukase de la part des autorités turques qui n'arrivent pas à reconnaître ce génocide parce que l'identité turque, musulmane, sunnite, s'est construite sur le déni de ce génocide. Hein.
Parce que on parle pas de génocide, on parle des événements
tragiques. Des événements, bon, on va même plus loin. On dit que c'est souvent les Arméniens eux-mêmes qui nous ont attaqués, nous avons subi. Bon, c'était dans un contexte de guerre, hein, c'est vrai. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a fallu construire une identité turque après-guerre. Hein, après la seconde, le génocide a eu lieu en 1915. Hein, oui. Il a fallu construire une identité kurde et turque. Et cette identité s'est construite sur l'islam et sur le sunnisme en particulier, ce qui fait que tout ce qui était chrétien, les Grecs ont été renvoyés en Grèce, hein, il y a eu un échange de population, on a pris les musulmans de Grèce qui sont venus s'installer en Turquie, et les Grecs ont été renvoyés, ça c'était en 1923, au moment de la fondation de la République, et les Arméniens, ben, on les a fait partir. Quoi. Et c'était une terre arménienne, la Turquie, c'est une terre chrétienne.
Toute l'Anatolie. Hein.
Voilà, et dire, si vous voulez, ce passé, cette identité chrétienne de la Turquie, c'est le tabou suprême. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître, c'est que tout s'est construit sur une identité musulmane et turque. Et alors, moi, j'ai souvent interviewé Dink, et en 2001, eh bien, il ne voulait absolument pas il était très opposé à ce que le Parlement vote cette reconnaissance du génocide arménien. Parce qu'il disait, si vous votez ça, ça va nourrir le nationalisme anti-européen. Et du coup, on ne va pas pouvoir faire notre projet de dialogue entre Turcs et Arméniens qui vivent. Il y avait 60 000 Arméniens, hein, alors qu'il y en avait 2 millions, 3 millions avant le génocide. Hein. Maintenant, il y a 60 000 Arméniens en Turquie. Donc, cette loi est votée, ça va crisper le nationalisme. Et moi, je ne pourrais plus faire mon boulot de passerelle, comme vous l'avez dit. Donc, il disait, ça va nourrir le nationalisme. Et il faut dire, alors je ne fais pas un lien de cause à effet, mais il faut dire quand même que 6 ans plus tard, il a été assassiné par un ultranationaliste. Hein, et on lui a reproché justement de ressortir les fantômes. Alors son travail qui était très intéressant, c'était que justement, il essayait de faire sortir les racines arméniennes. Parce que tous les Arméniens n'ont pas été liquidés. Il y en a beaucoup qui ont fui, il y en a pas mal qui se sont convertis. Il y a beaucoup ce qu'on appelait les grands-mères arméniennes. C'était des orphelines. Si vous voulez, au moment du génocide, eh bien, il y a des petites filles qui ont été soit confiées par leur famille arménienne à des paysans, à des bourgeois comme domestiques, ou bien comme filles à marier, parce que les arméniennes avaient une super réputation d'être nickel chrome, enfin, je veux dire, savoir très bien faire le ménage, tenir une maison, etc. Donc il y a eu plein de jeunes filles comme ça, orphelines, qui ont été achetées, qui ont intégré des familles turques, mais qui se sont converties. Et grâce à Dink et à son journal, ces 10-15 dernières années, tout d'un coup...
Journal qui s'appelait
Argos, le sillon, ça veut dire le sillon. Tout d'un coup, des grands-mères qui allaient mourir ont avoué, enfin ont raconté à leurs petits-enfants ce qui leur était arrivé. Donc, il y a eu des tas d'histoires incroyables. Et on a vu des Turcs très nationalistes qui étaient... Parce que l'injure suprême, c'est de vous traiter d'Arméniens, parfois. Et on a vu des trucs très nationalistes qui, tout d'un coup, ont découvert qu'ils avaient une grand-mère arménienne. Alors, vous imaginez les crises que ça fait. Enfin, je veux dire, ça a été terrible, ça. Et ça, c'était le travail de Dink. Ça l'embêtait qu'on... Il disait, le Parlement en français n'a pas à reconnaître la loi. Bon, on peut le dire.
Mais avec le recul, est-ce que vous considérez que ça a été contre-productif, cette affaire de 2001
et... Je pense qu'il faut quand même mettre la Turquie devant la réalité historique, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était difficile à gérer pour la diaspora, qui a peut-être été parfois considérée comme des otages ou comme des collaborateurs des Turcs, pas pour la diaspora, les Arméniens de Turquie ont parfois été un peu considérés comme des otages ou des collaborateurs des autorités turques par la diaspora. Et je pense que ça, en revanche, moi j'ai souvent dit aux Arméniens que je connais bien ici, au contraire, eux, ils font un boulot. Ils sauvent les meubles. Ils essayent encore de préserver ce qu'il y a, de sauver un peu quelques... Vous savez, il y a une destruction. Par exemple, il y a un nombre d'églises qui ont été transformées, d'églises arméniennes qui ont été transformées en dépôts d'armes ou en mosquées, etc. Et les quelques 60 000 Arméniens, pas tous malheureusement, mais vont à la Cour européenne des droits de l'homme pour exiger la reconnaissance de leur fondation. Et ils font un vrai boulot de préservation qui n'est peut-être pas toujours considéré à sa juste valeur.
Si j'ai cité Randik et la date de son assassinat en 2007, c'est que c'est un petit peu un tournant dans le parcours de l'AKP, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on sent quand même un certain durcissement du régime. Randik donc paye de sa vie ses tentatives pour aplanir la question du génocide, en tout cas tenter de la faire reconnaître en partie par la société turque. Et alors vous avez parlé des ultranationalistes qui l'ont assassiné. Alors on les appelle souvent les loups gris donc en Turquie. Vous avez rencontré ces loups gris. Donc il y a un parti ultranationaliste qui d'ailleurs est aujourd'hui allié à Recep Tayyip Erdogan. Donc il a une composante, ça représente 10, à peu près 10%, 10% à peu près. Donc aujourd'hui, je crois d'ailleurs que Erdogan compte sur eux pour sa majorité, c'est-à-dire qu'il n'a plus la majorité absolue. Donc ils sont très importants, ces ultranationalistes. Alors qui sont ces loups gris et quels sont ceux que vous avez rencontrés? Vous leur consacrez un ou deux chapitres. Racontez-nous comment vous êtes rentré en contact avec eux.
Juste pour vous parler de cette alliance avec les... Parce que vous parlez de cette année 2007 qui est effectivement très importante. Hein. 2007, il y a une dernière tentative de la part... Je suis obligée de revenir à ça.
Revenez.
2007, il y a une dernière tentative de l'armée qui est la gardienne de la laïcité. Bon, on peut discuter aussi de la laïcité turque. Hein. Je pense que ça, il faudra...
Je vous poserai une question là-dessus.
Donc, qui est la gardienne de la laïcité pour... Parce qu'il y a si vous voulez, Abdullah Gül, qui est un islamiste, hein, qui fait partie de ce parti, qui est un associé, qui est le frère ennemi d'ailleurs de Erdogan, veut se présenter à la présidence de la République. Sa femme est voilée. Donc il y a une mobilisation de l'establishment kémaliste militaire, à la fois grande manifestation dans les rues, hein, et puis l'armée qui fait un même manteau et qui dit nous sommes toujours là, nous interviendrons, enfin, menace d'intervenir, c'est-à-dire faire un coup d'État. Il y en a déjà eu quand même 4 par le passé, si jamais ce Abdullah Gül est élu. Bon, finalement, en fait, c'était un chant du cygne. Erdogan réussit à appeler à des élections anticipées et la population turque a très mal pris cette intervention militaire et du coup, elle vote comme un seul homme en 2007 pour l'AKP. Enfin, c'est-à-dire qu'il fait un énorme score, même des gens qui n'étaient pas particulièrement intéressés par...
Il a la majorité absolue.
À ce moment-là, il peut gouverner seul. Donc, ça a été complètement contre-productif. Et à partir de ce moment-là, Erdogan, avec son allié, qui est donc Alors, c'est là où c'est très important de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend rien de ce qui s'est passé en Turquie ces 20 années si on ne comprend pas qu'il y a eu une lutte à mort au sein de la mouvance islamique. Et c'est de ça dont je vais vous parler. En fait, quand Erdogan est arrivé au pouvoir, et son parti qui était tout neuf, hein, qui était créé en 2001, il y avait besoin, les Américains poussaient beaucoup ce parti, ça les intéressait d'avoir des musulmans démocrates. Moi-même, j'ai travaillé avec Michel Rocard, il était totalement, il disait, oh, ouais, ça va être un musulman démocrate, c'est formidable. Enfin, tout le monde participait de ça. Et Erdogan, en fait, est arrivé, il n'avait pas, l'appareil d'État lui échappait. L'appareil d'État était tenu par cet establishment militaro-kémaliste, mais il y avait ce qu'on appelle les réseaux gulenistes, c'est-à-dire que ce sont des sympathisants ou des supporters d'un imam appelé Fethullah Gulen, qui est parti aux États-Unis en 2009. Oui, c'était en 2009. Qui a toujours misé sur l'éducation. Donc il avait investi beaucoup sur deux ou trois générations de Turcs musulmans, pieux, travailleurs, et il leur avait au fond demandé de prendre des postes de responsabilité au sein de l'appareil d'État.
Un peu comme une franc-maçonnerie musulmane.
Voilà, un opus Dei musulman,
quelque chose comme ça.
Et c'était des types qui étaient... Voilà. En plus, il faut quand même dire les choses jusqu'au bout, parfois, il y avait aussi beaucoup de tricheries, c'est-à-dire qu'un certain nombre de résultats des examens, de diplomatie, etc., leur a été fournis, hein, quand même. Bon. Et Erdogan, donc, a pu asseoir son pouvoir grâce à ce réseau dans l'appareil d'État qui était quand même extrêmement important et donc plus ou moins marginalisé peu à peu les kémalistes. Jusqu'en 2008, où il y a eu la marginalisation ultime, c'est-à-dire que ces réseaux gulenistes au sein de la police et au sein de la justice ont aidé Erdogan à renvoyer l'armée dans sa caserne en faisant une série d'arrestations d'officiers et surtout en faisant une série de preuves fausses. Enfin, il y a eu toute une manipulation. Alors, ce n'étaient pas des enfants de cœur, hein, ces militaires, il faut quand même le dire. Mais enfin, ils ont été arrêtés, il y a eu des procès quasiment staliniens. Voilà. Et du coup, là, l'armée a été déjà une grande première purge. Et à partir de ce moment-là, Erdogan s'est senti beaucoup plus... Parce que la vraie opposition, c'était l'armée, quoi, pour lui. Parce que l'armée avait un rôle à dire sur les Kurdes, sur la politique étrangère. Et c'était un parti politique, d'une certaine manière, hein, l'armée.
Elle a autant d'importance en Turquie qu'elle peut en avoir en Algérie.
Absolument. Absolument.
Dans des pays où elle joue un rôle politique, voilà. Autant que militaire. Hein.
Et donc, il s'est dit, j'ai à peu près les mains libres. Simplement, il avait quand même tout ce réseau guléniste. Et là, donc, au sein de cette mouvance islamique, hein, ce réseau de supporters et de sympathisants de l'imam Gulen, les types ont dit « Mais attends, nous, on veut le pouvoir aussi. » Et voilà ce qui s'est passé. Et ça, on ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est ça. Donc, il y a une lutte à mort qui continue jusqu'au coup d'État de 2016. Hein, et ça a été terrible, parce que, si vous voulez, les gulenistes voulaient leur place dans les services secrets. Ils avaient déjà complètement occupé les services d'intelligence de la police. Enfin, et donc, il y a eu une lutte à mort entre ces deux mouvances. Et c'est pour ça, on en revient aux loups gris et aux ultranationalistes, que Erdogan a changé d'alliance et s'est allié avec les nationalistes et a durci son discours. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une première période où il avait adopté le langage des gulenistes pro-européens, Israël, on n'attaque pas trop, on parle du dialogue des civilisations, du dialogue des religions. Et puis à partir de 2008, 2009, 2010, hop, il change d'alliance, il est avec les nationalistes et il fait la chasse aux gulenistes. Et là, le discours est beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus islamiste, beaucoup plus islamo-nationaliste, plus qu'islamiste. On pourra revenir sur l'islam.
Alors, on comprend que la situation politique est très complexe. Donc, ces fameux loups gris, ce sont des nationalistes turcs, purs et durs. Ce qui est curieux, c'est que Erdogan s'est élevé contre le pouvoir de l'armée. Donc, il a réussi à mettre au pas, à renvoyer dans sa caserne l'armée turque, ce qui n'a pas été une mince affaire. Mais on imagine que peut-être entre ces nationalistes turcs et l'armée, il y avait peut-être des passerelles quand même.
Absolument.
Alors comment ça se passe? Parce que c'est un peu complexe à comprendre. Comment peut-il s'allier aux ultranationalistes tout en combattant le pouvoir de l'armée que les nationalistes devaient quand même soutenir, ne serait-ce que pour le salut de la défense du pays?
Oui, par rapport aux Kurdes en particulier.
Et par rapport aux Kurdes, notamment.
Les ultranationalistes sont anti-Kurdes, voilà. Parce qu'on ne parle pas de cet autre nationalisme. Il y a un nationalisme turc, mais il y a un nationalisme kurde. Kurdes. Hein, les Kurdes, bon, bah, vous.
Alors attendez, allez pas sur les Kurdes parce qu'on va plus comprendre. Parlez-nous des loups gris.
Non, bah, vous me parlez de l'armée. Donc l'armée, les nationalistes sont-ils présents dans l'armée? Alors l'armée n'est effectivement pas homogène et il y a effectivement toute une partie de l'armée qui est extrêmement nationaliste. Et donc c'est cette partie de l'armée là qui revit, quoi. Enfin, qui, si vous voulez, elle est anti-OTAN, elle est eurasiatique, elle est plus tournée vers la Russie. Hein, et c'est elle qui l'a emporté lors du dernier coup d'État de 2016, c'est-à-dire cette branche ultranationaliste de l'armée.
Contre, en gros, l'armée turque de l'OTAN.
Voilà, pro-européenne, plus bon.
Parce que je rappelle quand même que la Turquie est toujours dans l'OTAN. Hein,
alors, la Turquie est toujours dans l'OTAN, mais enfin bon.
Officiellement, en tout cas.
Officiellement, elle l'est, oui. Oui.
Oui. Comme elle est officiellement d'ailleurs candidate à l'adhésion à l'Union européenne, oui. ça reste deux choses officiellement
Seulement elle est encore
réelle et vérifiable.
Elle est encore officiellement. Alors bon, le Parlement européen vient de demander la suspension des négociations, mais le Parlement n'a aucun pouvoir. C'est la Commission européenne qui peut en décider, et c'est pas sûr que la Commission européenne en décide, parce que ce que vous expliquent les fonctionnaires européens, c'est qu'ils disent si on arrête tout, on n'a plus de levier d'influence avec eux. Et donc, il continue. Voilà, il y a une espèce de truc complètement surréaliste où non seulement on continue plus ou moins à négocier, mais surtout on continue à financer.
Oui, alors vous avez tout un chapitre où vous expliquez à quel point, malgré tous les problèmes entre Europe et Turquie, malgré les crises violentes, hein, il y a toujours l'Union européenne continue imperturbablement à financer et financer beaucoup la société turque avec officiellement pour objectif de rapprocher la Turquie de l'Europe. Hein.
Oui, il y a un truc complètement. Toujours,
alors vous avez essayé de comprendre ça.
Schizophrène, quoi. C'est-à-dire que vous savez, bon, il y a un certain nombre de domaines qu'on appelle les chapitres de négociation. Donc certains sont fermés, certains sont bloqués. Sarkozy, en particulier, avait fait bloquer 5 chapitres. C'est-à-dire on ne les négocie pas, on ne doit pas les négocier parce que sinon ça nous emmènera à devoir admettre la Turquie dans l'Europe. Eh bien, figurez-vous que l'Union européenne finance pourtant l'acquis communautaire, c'est-à-dire la progression, les réformes pour ces chapitres-là, parfois. Enfin, pas tous, mais en fait, l'une des raisons, alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le politique et le financier sont complètement découplés. Parfois, ils ne savent même pas ce qui, entre eux, les fonctionnaires européens ne savent pas exactement ce qui est bloqué. Enfin, c'est un truc complètement fou, quoi. Et puis, il y a une autre raison toute bête, c'est que tous ces programmes d'aide aux réformes, à ce qu'on appelle l'acquis communautaire, ben, ce sont des ONG européennes qui sont impliquées. Donc, si on arrête cette manne, il y a beaucoup de gens à Bruxelles qui vont être au chômage. Donc, il y a quelque chose là qui est complètement retors, mais ou pervers. Mais qui... Et puis, alors, ce que vous expliquez, comme je vous le disais, c'est qu'ils disent, bon, ben, c'est, au moins, on a des contacts grâce à ça. Si on coupe tout, on n'aura plus de contacts avec les fonctionnaires, les Turcs.
Alors, vous ne m'avez pas répondu sur les loups gris, parce que mes fameux loups gris, là.
Excusez-moi.
Parce que, bon, il y a cette alliance entre les islamo-nationalistes, oui. Alors, évidemment, comme l'islamo-conservatisme est devenu un islamo-nationaliste, oui. C'est peut-être plus facile de s'allier avec des nationalistes. Mais quand même, ils sont plutôt laïcards, les nationalistes.
Alors, justement, ben
comment ça se passe entre eux?
Vous êtes un excellent journaliste, vous posez une très bonne question, parce qu'en fait, il y a eu une division du camp nationaliste entre les laïcards, comme vous dites, qui sont passés dans l'opposition, qui ont créé un nouveau parti qui s'appelle le II, hein, c'était donc les loups gris, mais qui sont passés dans l'opposition, et ceux qui sont alliés avec Erdogan, qui s'accommodent effectivement d'un discours religieux, de plus en plus religieux, hein, de Erdogan. Et donc, si vous voulez, là, effectivement, il y a eu un éclatement de cette bulle. Moi, je pense que l'alliance Erdogan... Vous savez, un islamiste n'est pas nationaliste, théoriquement. Et c'est ça. Alors, l'islam turc est très nationaliste. Hein, mais normalement, un islamiste, ce qui l'intéresse, c'est la Oumma, c'est-à-dire l'islam...
Enfin, il faut quand même préciser que ce sont des Turcs et pas des Arabes.
Voilà,
donc,
absolument.
Donc, il y a quand même un clivage, là.
Absolument. Hein. Et c'est la spécificité de l'islam turc, c'est qu'il est aussi nationaliste.
Il est très turc.
Mais Erdogan disait souvent « je ne suis pas turquiste ». Ce qui veut dire « je ne suis pas nationaliste ». Cela dit, il s'est allié avec les nationalistes.
C'est un mensonge, ça, parce que... Oui.
Non, je pense que lui, ce qu'il aimerait être, c'est effectivement le grand leader du monde musulman. Hein. C'est ça, lui.
Rétablir l'Empire ottoman.
Oui. Voilà. Puis, alors, c'est pour ça que l'une des raisons... Enfin, dans le bouquin, je parle aussi de la France, vous l'avez abordé, parce que c'est pas simplement l'Empire ottoman, le Proche-Orient, mais lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est d'avoir une influence dans les Balkans, quoi.
Alors, on a compris. Tout à l'heure, vous avez commencé à me brancher sur les Kurdes. On sait qu'il y a un gros problème kurde. Mais je voulais vous faire parler d'autre chose, puisque c'est un pays très compliqué. Mais on pense parfois qu'il y a les Turcs sunnites d'un côté, les Kurdes de l'autre, et puis quelques Arméniens qui se promènent par-ci par-là. Mais en fait, au sein même du grand bloc turc, il y a des gens qui s'appellent les Alevis. Et j'aimerais bien que vous me parliez des Alevis, parce que on n'en parle pas souvent de ces gens-là. Ils sont très nombreux. Ouais. On dit, je ne sais pas s'ils sont plusieurs millions, peut-être plus de 10 millions.
On ne sait pas trop.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Alevi ? Expliquez-nous ce que c'est qu'un Alevi. Vous en avez rencontré.
Il y a tout un chapitre consacré à eux. Alors, les Alevis, d'abord, il y a une discussion. Est-ce que c'est des musulmans ou pas ? Certains se disent musulmans, les autres ne se disent pas. En fait, eux se disent, nous étions les premiers, bien avant les sunnites, nous étions en Turquie. C'est un syncrétisme entre un peu de chiisme, un peu... Il y a aussi des rites chrétiens, il y a de l'islam, il y a une espèce de... Alors, c'est une population qui ne prie pas 5 fois par jour, qui ne voile pas ses femmes, qui ne fait pas le ramadan, et qui fait ses prières, si vous voulez, en dansant. Si vous voulez, ils ont plus une influence soufie, d'une certaine manière. Enfin, c'est plus mystique. Les femmes et les hommes dansent en côte à côte. Donc, c'est une religion... Alors, ils ne sont pas très pro-Erdogan, ou pro, en tout cas, sunnites. Hein. Ils se sont beaucoup cachés. Beaucoup d'Arméniens se sont reconvertis à l'alévisme parce que c'était plus compatible avec leurs racines chrétiennes. Beaucoup de Kurdes sont aussi alévis. Hein, ils n'ont pas de mosquée. Ils ont des maisons de prière où, je vous dis, on danse avec... Il y a une poésie, il y a une littérature alévis. Ils se voient souvent comme les protestants de l'islam parce que, si vous voulez, ils sont... plus égalitaire entre les femmes et les hommes, les dédés qui sont leur imam sont, c'est pas, il y a une espèce de contact direct entre les fidèles et le dédé.
Est-ce qu'on peut tracer un parallèle par exemple avec ce que sont les druzes ou les alaouites en Syrie par exemple?
Il faut faire attention.
Les druzes au Liban ou les alaouites,
c'est la même chose. D'accord. Hein,
En tout cas, ce sont des minorités qui sont proches de l'islam mais qui ne se confondent pas avec lui.
Absolument.
Et qui du coup, alors la traduction politique c'est quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont très intégrés ou pas très intégrés? Est-ce que tous les emplois leur sont ouverts? Est-ce qu'ils ont des problèmes pour avoir une existence sociale aussi ample que les sunnites turcs orthodoxes, j'allais dire? Comment ça se passe?
Alors, justement, Erdogan a quand même, au début, dans la période un peu libérale, hein, il a essayé de faire quelques gestes vis-à-vis des alévis. Hein.
Il a des ministres alévis?
Actuellement, il n'en a pas, je crois, ou alors ça, je ne sais pas. Le nouveau gouvernement, c'est une bonne question, une colle. Mais en revanche, tout leur est à peu près ouvert. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont souvent dans l'opposition, dans le parti républicain du peuple, kémaliste, ou à l'extrême gauche. Et il y a un chapitre où je raconte, parce que ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il y a une extrême gauche qui n'est pas en nombre, qui n'est pas énorme, mais qui est terrible. Qui est une extrême gauche, souvent alévie et kurde, avec des grands mouvements de grève de la faim, épouvantables. Moi, j'ai assisté dans les années 2000-2002, comme ça, j'ai vu mourir devant moi, enfin, des femmes qui protestaient contre le problème des prisons.
Hein, il y a tout un chapitre sur voilà. Ils sont fous furieux. Hein.
C'est terrifiant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu. Donc, il y a eu 80 morts comme ça en quelques mois pour protester sur. C'est toute une histoire, les prisons, hein, mais sur le régime, le nouveau régime instauré dans les prisons. Et donc, les alévis sont très... Les femmes, je me dis souvent que j'arrive à reconnaître une alévie, parce qu'elles sont... On voit bien, elles sont pas voilées, mais aussi, elles sont extrêmement...
Toutes les femmes ne sont pas voilées en Turquie, hein,
non,
il faut le dire,
mais
hein.
Elles ont une espèce de... Elles sont des féministes, elles sont politiquement extrêmement structurées. En tout cas, elles sont très politiques. Hein. Il faut comprendre que les Turcs, nous sommes des enfants de cœur sur le plan politique à côté. C'est des gens qui ont le sens de la politique. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on a toujours sous-estimé.
Est-ce que celle que vous appelez la passionnariat du kémalisme, et dont vous faites un portrait, dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais est une alévie ou pas ?
Nour Sever. Non, elle n'est pas alévie.
Elle n'est pas alévie
du tout. Non, elle est sunnite. Non. Ben, c'était elle. Elle a pris, je racontais tout ce qui s'était passé en 2007, cette mobilisation de l'armée, de l'establishment, pour empêcher l'élection d'un président islamiste. Elle a été l'une de ses passionnariats. Elle était professeure.
Dites son nom.
Nour Sever. Une académicienne, universitaire, et elle était connue. Alors ça vous intéressait, parce qu'elle faisait la guerre au voile, et elle avait été vice-recteur de l'université d'Istanbul, et elle interdisait aux étudiants de venir voiler. Et elle avait mis en place ce qu'on appelait des chambres de...
Ben oui, des chambres de conversion.
De conversion, je ne sais plus. Enfin, donc, les filles arrivaient...
Qui permettaient aux filles de se dévoiler.
Voilà, les filles arrivaient, elles enlevaient leur voile, et à ce moment, elles pouvaient entrer dans l'université. Enfin, leur voile, c'était un foulard, hein, c'est pas le... Et l'idée, c'était qu'elles ne le remettent pas. Donc, il y avait tout un petit discours pour arriver. Et évidemment, ça ne faisait que renforcer la motivation de ces filles, qui pour elles, qui c'était une identité.
Il y en a une qui vous dit, ça me renforce, je garde un voile intérieur.
Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, alors, il y en avait qui amenaient une perruque. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent vu, vous connaissez l'université Galatasaray, eh bien, il y en avait qui enlevaient leur voile, qui mettaient une perruque par-dessus. C'était...
Alors, cette passionnariat, donc, puisque ça nous mène cette opposition, qui est cette opposition à Erdogan, puisque Erdogan n'est pas tout puissant en Turquie, même s'il a des pouvoirs constitutionnels énormément élargis depuis quelques années. Il a fait passer des réformes qui l'ont beaucoup renforcé, qui lui ont donné vraiment barre sur le pouvoir judiciaire, sur le pouvoir législatif. Donc, c'est quand même une autocratie très nette. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une tradition parlementaire en Turquie et il y a des partis d'opposition. Alors, vous avez parlé des kémalistes. Il y a aussi des partis libéraux, il y a la partie kurde. Donc il y a une opposition qui est un peu éclatée, mais qui est assez vivace quand même. Hein. Elle est quand même assez structurée. Dans quel état est cette opposition aujourd'hui?
En face donc de cette alliance ultranationaliste et islamo-nationaliste du parti de Erdogan, vous avez le Parti républicain du peuple, qui est le parti historique, qui a été créé par Mustafa Kemal, qui a été longtemps le seul parti, hein, parce que ça a été souvent jusqu'aux années 50, c'était un seul parti, un parti unique en Turquie. Et puis vous avez ce que vous dites, ce qu'on appelle le Parti démocratique des peuples, qui était kurdo-turc, mais qui est assez kurde, alors qui soutient au fond une autonomie kurde, un nationalisme kurde, dont je vous ai parlé, mais qui est à gauche, alors qui en revanche, lui par exemple, est prêt à reconnaître le génocide arménien, alors que ce sont les Kurdes qui ont quand même commis une grande partie du génocide arménien, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, donc vous avez au fond le paysage politique, c'est une alliance des peuples, avec Erdogan, et puis les îles nationalistes, une alliance de la nation, avec les Républicains du peuple et l'autre parti nationaliste laïque, et puis ce parti kurde qui a fait un énorme score en 2015 et ce qui a complètement choqué Erdogan, qui ne s'y attendait pas parce qu'ils ont remporté 80...
Ils ont fait plus de 10% des voix, ils ont fait 80 députés.
Et ça a été le grand choc, ce qui fait que 3 mois après, Erdogan, après avoir réanimé... Alors c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois les responsabilités sont partagées.
Il a dissous l'Assemblée. Hein.
Il a dissous 3 mois. Il a rappelé à un autre vote en disant, en gros, si vous refaites ce vote-là, ça va être le chaos. Les 3 mois précédents ayant été un peu... La guerre civile ayant repris. Et donc, effectivement, le nombre de députés a été moindre, mais ils sont installés maintenant dans le paysage politique.
Il y en a certains qui sont en prison. Hein.
Alors, voilà, c'est ça. Il y a une vraie répression. C'est là où on peut... Aujourd'hui, moi, je parle d'autocratie, avec des tendances dictatoriales très nettes.
Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans l'ascension d'Erdogan et dans son parcours, donc vous avez raconté qu'il avait été quand même en difficulté, puisqu'il a fallu qu'il s'allie à Gulen pour faire pièce à l'armée, que ça a été compliqué. Mais il n'a pas seulement reçu l'aide de Gulen, il a aussi reçu l'aide des démocrates et des gens de gauche et des libéraux, des laïcs, parce qu'ils ont vu dans Erdogan finalement un moyen de se débarrasser de l'armée. Et donc ça veut dire qu'au début, Erdogan est un type qui apparaît comme à la fois modéré, qui va permettre à la démocratie de se développer, qui va nous rapprocher de l'Europe, qui va permettre de renvoyer l'armée dans les casernes. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de démocrates et de libéraux de gauche qui vont dire finalement on va l'aider.
Donc vous avez rencontré... J'ai plus rien à dire, vous avez tout expliqué très bien.
Non, mais expliquez-nous, parce que...
C'est les islamo-gauchistes français.
Parce que du coup, le réveil est un peu difficile.
On est exactement dans la même histoire qu'ici, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre... Alors, les dossiers sont différents, comme vous l'avez parfaitement dit, mais effectivement, la gauche libérale, les libéraux et la gauche voulaient, si vous voulez, renvoyer l'armée dans ses casernes, l'armée qui était quand même toute puissante, hein. Renvoyer l'armée dans ses casernes, voulait libéraliser, démocratiser, voulait une solution au problème kurde. Et à tout ça, Erdogan et l'AKP répondaient d'une façon extrêmement positive les 8-9 premières années, hein. Enfin les 6-7 premières années. Et effectivement, ils l'ont soutenu. Et en particulier, c'est là où le réseau guléniste a joué un rôle incroyable, parce qu'ils avaient le narratif, ils avaient plein de journaux, je vous parle des journalistes, hein, justement, qui avaient quand même un double agenda. Et toute cette mouvance guléniste savait très bien ce qu'il fallait dire, parce c'est un mouvement international qui est très présent, ils sont très présents. Là, je suis en train de faire une enquête sur leur présence en Europe, vous voyez, ils sont très présents internationalement. Et donc, ils savaient très bien comment parler aux Européens, et ces intellectuels libéraux aussi, qui avaient souvent fait leurs études aux États-Unis, en Europe. Donc ils ont fourni... Il y a une alliance objective entre à la fois cette mouvance guléniste et ces intellectuels libéraux pour fournir un narratif à Erdogan et qui plaise. Et je me souviens, moi, il y a eu des dîners où on voyait la gauche, de dîners de diplomates. Enfin, moi, j'étais souvent avec des diplomates, de passage ou présents en Turquie. Et ces gens-là prenaient vraiment la défense de cette aventure islamo-conservatrice.
Qu'est-ce qu'ils disaient ? Quels étaient leurs arguments ?
C'est la seule solution. D'abord, il y avait l'idée aussi, on a écrasé toute la dimension islamique de la Turquie, et on les a un peu... Oui, c'est sartrien, c'est-à-dire l'idée, c'est que je m'engage contre ma classe, c'est-à-dire que, bon, bah, tous ces musulmans, on les a un petit peu déniés, etc., mais c'est aussi la Turquie, il faut leur permettre de...
Vous pensez aux paysans anatoliens,
voilà,
crasseux,
qui est
analphabète, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça, il y avait toujours cette idée-là, il y avait une classe bourgeoise qui était extrêmement dédaigneuse, donc la gauche, on disait, la gauche, ce qu'il en reste, parce qu'il n'y avait pas beaucoup...
C'est un peu la gauche, ça, c'est un peu la gauche caviar à la Turque,
la,
hein,
la gauche, parlez, la gauche, oui, la gauche qui n'existe pas beaucoup, surtout. Si
oui.
Alors moi, il se trouve que j'ai fait, donc en 2014, parce que c'est un truc qui me travaillait beaucoup, parce qu'en 2009, je fais justement ce livre avec Ahmet İnsel et tous ces gens-là sont des copains à moi. Hein. Il faut dire que tous ces intellectuels libéraux, etc., je les connais
très bien. Ils n'ont pas pu venir ce soir. Mais...
Bah, il y en a beaucoup qui sont en prison.
Oui, c'est ça, non,
c'est qu'il y en a maintenant. Alors, c'est toute l'histoire. C'est que maintenant, il y en a plein qui ont été arrêtés, qui sont en prison.
Qu'ils avaient soutenu.
Ils avaient soutenu. Bah, après,
le réveil est très difficile quand même pour ces gens-là.
C'est un peu difficile. Mais en 2014, je fais un papier pour Slate, parce que j'écris pour Slate FR. Et ce papier est traduit en turc. Et ça fait. Un bruit fou, le télé dit, venez nous expliquer. J'ai dit non, c'est pas mon problème. Mais non. Bon, et effectivement, les gens dont je parle me téléphonent, me disent, mais tu as raison, on s'est gouré, on s'est fait avoir. Enfin, il n'y en a que deux qui ne sont pas reconnus. Mais à mon avis, c'est ceux qui le sont plus. Mais enfin, bon. Et je me souviens que j'étais à François Hollande, le président François Hollande vient faire une visite à Istanbul et je suivais le voyage. Et un de ses interlocuteurs est un haut fonctionnaire international. Je ne vais pas dire qui c'est, mais enfin, un ancien ministre, etc. Et il s'approche de moi et me dit, mais moi, parce que le titre de mon article, c'était les intellectuels de gauche et libéraux ont-ils été les idiots utiles d'Erdogan ? Et il s'approche de moi et il dit, j'ai été un idiot utile. Donc, bon, vous voyez, il y a eu vraiment... Mais l'Europe aussi a voulu y croire. Hein. Et c'était assez bien fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait... C'était fait... Il savait très bien parler... Je pense même que peut-être que s'il n'y avait pas eu ce conflit avec les gulenistes, il aurait pu se passer quelque chose d'intéressant. Hein. C'est pas exclu complètement. C'est pas exclu complètement.
Alors, il y a eu en 2016, je regarde, vous allez pouvoir poser des questions, encore pour en poser une pour parler de la dernière partie, parce que en 2016, vous l'avez évoqué, il y a eu un coup d'État militaire, hein, c'était en juillet 2016.
15 juillet.
15 juillet, donc les avions ont bombardé des sites à Istanbul. Bon, alors ça, Erdogan donc, a évidemment échappé au coup d'État, et donc il a pu réagir dans les 48 heures. Hein. Alors il a réagi d'une manière terrible.
Hein. Oui.
Comment lisez-vous ce coup d'État aujourd'hui ? Puisque vous qui avez beaucoup travaillé sur Gulen, Erdogan a accusé les réseaux Gulen d'avoir été à la manœuvre. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il n'a pas poussé le bouchon un peu trop loin pour pouvoir se débarrasser de beaucoup de gens qui le gênaient par ailleurs, pour continuer à épurer l'armée, enfin pour assurer son pouvoir ? Est-ce que ce coup d'État n'était pas finalement presque, une bonne surprise au sens où...
Un don de Dieu. Il a dit que c'était un don de Dieu.
Voilà. Expliquez-nous comment vous avez comment est-ce que vous lisez ce coup d'État de 3 ans après et qu'est-ce que ça implique dans le devenir de la Turquie aujourd'hui.
Bon, alors le coup d'État a encore beaucoup de mystères. Est-ce que ça a été un coup d'État? L'une des hypothèses, c'est qu'effectivement il y a eu une volonté de coup d'État au sein de l'armée, pas seulement des gulenistes, d'un camp kémaliste, et que ils ont été manipulés. Voilà, qu'ils ont pu le faire, on les a laissés faire, si vous voulez, pour mieux les écraser. C'est une des hypothèses. Bon, je raconte un peu ce qu'on sait maintenant. Hein. Mais il y a encore beaucoup de mystères, et surtout, je m'abstiens de donner une expérience, parce que les meilleurs limiers, enfin, il se trouve que je connais 2 ou 3 personnes qui vraiment sont des très, très bons dans ce domaine-là, et ils ne savent pas. Donc, en revanche, ce qu'on sait, c'est que si le coup d'État militaire a été raté, ben Erdogan a réussi à un coup d'État civil. C'est-à-dire qu'il a, grâce à ça, déclaré l'état d'urgence Et avec l'état d'urgence, il a pu instaurer le régime qu'il voulait, qui est un régime présidentialiste, hein, ça n'a rien à voir avec le régime présidentiel, où, comme vous l'avez dit au début de cette séance, il a des pouvoirs, d'abord pas plus de gouvernement responsable devant le Parlement, c'est lui le chef du parti, il nomme effectivement à peu près tous les gens les plus importants de la Cour constitutionnelle ou la justice.
Pas de pouvoir d'initiative du Parlement.
Pas de pouvoir d'initiative.
Contrôle de la justice.
Contrôle de la justice. Bon, des vice-présidents qu'il nomme. Il a tout pouvoir. Alors, l'une des raisons, et ça, on le comprend pas toujours bien en France, c'est de nouveau cette lutte au sein de la mouvance islamique, parce que l'enjeu, c'est, en Turquie, on a un rapport à l'État très particulier, et l'enjeu, c'est la propriété de l'État. Et ce que Erdogan veut, c'est tenir l'État. Et c'est pour ça qu'il a chassé, donc, grande purge, 150 000 fonctionnaires démis qui étaient souvent des guélénistes, mais pas seulement. Il s'est aussi attaqué à la gauche, il s'est attaqué à tous ses opposants. Donc, des énormes purges, des choses terribles. Moi, j'ai un ami qui est un constitutionnaliste qui n'est absolument pas ni PKK ni guléniste. Eh bien, il a fait des choix. Enfin, il l'a renvoyé de l'université, il lui a enlevé son passeport. Et d'une façon, enfin, il n'y a plus d'état de droit en Turquie. Ça, c'est très clair. Hein, il faut... Voilà. Donc... Il a réussi à faire approuver donc cette nouvelle constitution en 2017, puis juin 2018, nouvelles élections. Et donc là, il a effectivement à sa main, quoi qu'il a dû s'allier avec les nationalistes, il est maintenant le nouveau président de ses rêves, c'est-à-dire ce qu'il voulait.
Un petit mot sur la laïcité, parce que vous avez parlé tout à l'heure. On dit souvent qu'avec la France, la Turquie, c'est l'autre pays de la laïcité. Mais il faut bien voir que bon, c'est quand même extrêmement différent. Apparemment, si j'ai bien compris, la laïcité à la Turque, c'est surtout le pouvoir de contrôler les mosquées. C'est-à-dire qu'en clair, les prêches des imams turcs sont écrits au ministère de l'Intérieur. C'est bien ça.
Le vendredi, celui du vendredi, oui.
Oui. Qu'est-ce que c'est la laïcité turque par rapport à la laïcité française ?
Notre laïcité consulaire. Du consulat, c'est-à-dire d'Alsace et Lorraine. C'est-à-dire que c'est une laïcité, comme vous l'avez parfaitement dit, on ne sépare pas l'État et la mosquée. L'État contrôle la mosquée. D'ailleurs, elle paye les imams, elle paye les mosquées, elle paye, mais alors seulement les mosquées. Les alévis dont je vous ai parlé doivent payer eux-mêmes leurs prêtres. Les arméniens, évidemment, payent leurs
prêtres. Les églises, je ne vous en parle pas.
Ouais. Donc, c'est en fait... Et alors, c'est là où Erdogan, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit toujours qu'il est en rupture avec l'héritage kémaliste de Mustafa Kemal, qui a instauré la laïcité. Mais en fait, il s'est coulé parfaitement dans cette laïcité qui est faite pour contrôler l'islam. Hein, et pour surtout, d'une certaine manière, instaurer une religion d'État qui serait donc sunnisme. Et ça, c'est
enfin,
là
le grand imam, c'est lui.
Ah ben ça, c'est alors est-ce que c'est un sultan, un imam, un calife ? Bon, on peut discuter, mais effectivement,
il est commandeur des croyants, comme peut l'être le roi du Maroc, par exemple.
Ben, c'est-à-dire que. Bon, il n'a pas cette descendance historique, mais en revanche, c'est un type qui sait extrêmement bien dire les prières en turc. Il a le phrasé, le rythme, il sait très bien le faire parce qu'il a fait une école de formation d'imam, c'est vrai, quand il était plus jeune. Donc cette laïcité est très particulière et comme vous le dites, effectivement, tous les vendredis, les imams de toutes les mosquées reçoivent le prêche écrit par l'État, quoi. Mais... Ce qui peut être utile, par exemple, au moment de Charlie Hebdo, eh ben, ils ont calmé le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, ben, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, mais on ne va pas, comme les Arabes qui s'emportent facilement. Parce qu'il y a
ah oui, parce qu'ils disent souvent, les Arabes sont des émotifs, voilà. Alors que nous, on réfléchit.
Oui, ça, il faut quand même savoir que, alors qu'il veut avoir effectivement de l'influence sur les Arabes, ils sont très anti-Arabes, les Turcs. Hein. Ils ont été, eux, l'Empire, quand même. Ils les ont dominés, quand même.
Et donc, évidemment, nous, quand on parle de la laïcité turque, on dit bah, la laïcité, c'était que les filles n'étaient pas voilées sous Kemal et quand l'armée faisait ses coups d'État. Puis aujourd'hui Abdullah Gül voile sa femme, Erdogan voile sa femme, et puis à l'université, on se voile aussi. Enfin, ça tourne beaucoup autour de cette question-là.
Ça, c'est toute l'histoire du voile, on la connaît aussi en France. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quand même une demande d'un certain nombre de jeunes filles qui ont envie de se voiler parce que c'est leur identité, parce que c'est un combat aussi. Enfin. Il y a des filles qui se voilent, elles disent « Est-ce que je vais être assez forte pour me voiler ?» C'est une façon de... Bon, et puis, il y a une instrumentalisation qui est aussi une affirmation identitaire et politique. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est toujours les femmes qui sont mises devant. Quoi. On aimerait bien que les hommes, je sais pas, soient obligés aussi de se voiler ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours les femmes qui sont... Merci.
Voilà, donc Turquie, l'heure de vérité aux éditions Empreintes, temps présent.